France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Imaginez, vous entendez dans une ou les deux oreilles de façon constante ou intermittente des sifflements, des bourdonnements, des grésillements, des bruits non provoqués par un son extérieur. Ce phénomène, entre 7 et 15 millions de Français le vivent, ils souffrent d'acouphènes. Et pour 30% d'entre eux, cela impacte leur vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle, jusqu'à parfois s'isoler complètement, notamment quand ces acouphènes s'associent à une hyperacousie, c'est-à-dire une sensibilité accrue au bruit. D'où viennent ces acouphènes et cette hyperacousie? Pourquoi certains patients supportent bien leurs symptômes et pas les autres? Pourquoi leur vécu peut être si différent pour des troubles identiques? Ce phénomène, qu'il est difficile de comprendre quand on n'en souffre pas, reste par bien des aspects mystérieux. Dans certains cas, des causes peuvent être retrouvées et parfois traitées, mais le plus souvent, c'est le vieillissement de l'oreille qui est en cause. De nombreuses recherches sont menées pour mieux connaître le mécanisme de ces acouphènes afin de mettre en place des thérapies efficaces. Aujourd'hui, les solutions visent avant tout à faire accepter ces bruits parasites par le malade. Mais comment? On en parle avec le docteur Alain Landais. Alain Landerot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL, vous animez une consultation acouphène hyperacousie à l'hôpital Lariboisière à Paris. Vous dirigez une unité de recherche dans le cadre d'un institut hospitalier universitaire, Reconnect, qui est dédié à tous les troubles de l'audition et qui est développé en partenariat notamment entre l'Institut Pasteur et la PHP. Vous savez combien de temps qu'on s'intéresse à ces acouphènes? Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'effectivement, beaucoup de patients en souffrent. Et est-ce que d'emblée, on a cru ces patients qui disaient des choses qu'on ne pouvait pas constater?
Alors, oui. D'abord parce que les acouphènes, c'est une histoire ancienne. Ça a été décrit depuis la plus haute antiquité, donc, et c'est décrit dans toutes les cultures. Donc, on sait que ça existe depuis très longtemps. Les explications, pour essayer de donner une explication, effectivement, à l'origine de ce phénomène, ont été nombreuses et diverses, hein, au cours de l'histoire de la médecine. Et on s'y est intéressé à la fois parce que c'est un phénomène intrigant et aussi parce que on a toujours, et depuis longtemps, essayé de soulager les patients qui en souffrent en utilisant différentes méthodes thérapeutiques qui visent soit à essayer de traiter la cause quand elle est identifiable, soit à essayer effectivement de soulager le patient quand il est atteint de ces distorsions de la perception auditive, comme on aime à les appeler, pour essayer de faire que l'état de gêne décrit par les patients soit moindre.
Alors ces patients vivent, moi j'ai évoqué ça, des sifflements, des bourdonnements. Il y a d'autres bruits décrits? Qu'est-ce qu'ils vous racontent, les patients?
Alors en fait, il y a beaucoup de bruits qui sont décrits par les patients, parfois multiples chez le même patient. Et en fait, le terme acouphène est un terme qui est un terme générique, c'est un terme chapeau, c'est une sorte de parapluie qui va couvrir différentes réalités. Et je dois bien avouer qu'on a même du mal à définir le terme acouphène si on veut être très très précis, si on veut avoir une définition qu'on dit théorique et opérationnelle de ce qu'est un acouphène, mais en fait c'est pas facile. Il y a différentes tentatives récentes avec des articles qui ont été publiés avec des définitions qui sont pas tout à fait concordantes et qui posent des problèmes tout à fait intéressants de nosologie, c'est-à-dire de classification des maladies et de définition de ce qu'est une maladie, de qu'est-ce que c'est que de souffrir d'un acouphène ou pas.
Quand est-ce qu'ils les entendent le plus, les patients? Est-ce que la nuit ça s'arrête? Est-ce que c'est plus dans un brouhaha, moins?
Alors, ça dépend du type d'acouphène, bien sûr. Généralement, les situations d'exposition sonore sont des situations où l'acouphène va être masqué. Et donc, souvent, les patients disent que le moment le plus inconfortable pour eux, c'est le moment du coucher, du sommeil, ou du réveil nocturne, ou du réveil matinal, où finalement, dans le silence de la chambre, l'acouphène va émerger comme une forme auditive extrêmement envahissante et pénible à percevoir. Ceci étant, il y a des patients qui, au contraire, vont décrire que les situations d'exposition sonore vont aggraver le dysfonctionnement du système et leur faire percevoir non seulement plus d'acouphènes, que ce soit pendant l'exposition ou après, et aussi les rendre très inconfortables parce que le bruit va avoir un caractère agressif et douloureux, ce qu'on appelle l'hyperacousie douloureuse dont vous avez parlé tout à l'heure.
On va y revenir à ça. Est-ce que ces acouphènes arrivent brutalement dans la vie et est-ce qu'ils peuvent disparaître aussi complètement ou pas?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les acouphènes, c'est un terme chapeau. Il y a des acouphènes qui surviennent de façon très très brutale, par exemple après un épisode infectieux de l'oreille ou une pathologie traumatique, hein, un accident sonore ou un traumatisme direct de l'oreille.
Un accident sonore, ça peut être un concert où on n'aurait pas mis le bouchon d'oreille.
Un concert où on ne se serait pas protégé, l'utilisation d'une perceuse dans un mur un peu dur qui va faire un bruit pendant quelques minutes et puis on va se retrouver après avec l'acouphène qui ne va plus jamais cesser après. Donc ça peut être ah oui. brutal. Et puis dans d'autres cas, comme par exemple, vous avez cité tout à l'heure le vieillissement naturel de l'audition qu'on appelle la presbyacousie. Eh bien, dans le cas de la presbyacousie, souvent l'acouphène est un phénomène qui va apparaître plus lentement, de façon insidieuse. On va percevoir l'acouphène de plus en plus souvent, jusqu'à un moment où il va être là présent tout le temps. Et puis dans d'autres cas, l'acouphène est un phénomène qui peut être modulé, c'est-à-dire déclenché par certains événements extérieurs. On s'est beaucoup penché récemment sur les modulations par le sommeil. Certains patients décrivent que le fait de dormir, de faire une simple sieste, va déclencher l'acouphène, alors que quand ils auront dormi pour la nuit suivante ou une autre sieste, eh bien, le fait de dormir va au contraire arrêter l'acouphène et ça pose des problèmes théoriques sur qu'est-ce qu'est une perception auditive, comment fonctionne le système auditif pendant l'éveil ou pendant le sommeil, et ça peut donner des clés d'analyse justement sur des mécanismes intimes de production d'acouphènes et de génération d'acouphènes.
Il y a un profil des acouphéniques, est-ce que c'est plus des gens âgés, c'est plus des femmes ou des hommes, est-ce qu'il y a des enfants qui sont atteints?
Alors, les statistiques récentes disent qu'en gros, une personne sur six dans les pays industrialisés souffre d'acouphènes. C'est vrai chez les adultes, chez les enfants, avec un pic de fréquence aux alentours de la soixantaine. Donc il y a effectivement, mais c'est lié probablement au vieillissement du système, la probabilité d'avoir un acouphène est un peu plus grande quand on a un déficit auditif. Et quand on a un déficit auditif, finalement, le moment où on a le plus sujet à l'avoir, c'est quand le système auditif vieillit, parce que c'est un système fragile qui est soumis à toutes sortes d'agressions sonores, chimiques et de quelques autres maladies qui peuvent abîmer le système auditif. Et finalement, on a plus de chances à mesure qu'on vieillit d'avoir un système qui dysfonctionne et donc un acouphène qui s'installe.
Et le ratio homme-femme,
il y a un peu plus d'hommes, parce que les hommes ont des activités qui sont plus souvent exposées au bruit. Ils ont aussi des facteurs de risque plus importants, en particulier le tabagisme, l'alcool, qui peuvent majorer des risques vasculaires, l'hypertension. Et ça peut aussi abîmer le système auditif. Et par voie de conséquence, c'est un facteur supplémentaire de... Alors, juste une chose à ce propos-là. Si les hommes ont plus tendance à avoir un acouphène, les femmes auraient plus tendance à avoir un acouphène invalidant.
D'accord. On va venir à ces perceptions parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a des familles d'acouphéniques ?
Il y a probablement un déterminisme génétique à la fois de certaines maladies qui provoquent des pertes auditives et donc des acouphènes. Et il n'est pas impossible, c'est fait partie justement des travaux qui devraient être réalisés dans les années à venir dans le cadre de l'Institut Hospitalo-Universitaire Reconnect et à l'Institut Pasteur où il y a vraiment une très très grande expertise du domaine très spécifique que constitue la génétique, les troubles génétiques de l'audition. Il n'est pas impossible qu'il y ait des gènes qui rendent susceptibles à développer un acouphène, et d'ailleurs d'autres gènes qui rendent susceptibles à développer un acouphène invalidant, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Alors, pour être bien précis, on décrit deux types d'acouphènes, hein, les acouphènes objectifs et les acouphènes subjectifs. Les plus rares, c'est à peu près 5% des cas, ce sont les acouphènes objectifs. Objectifs parce qu'on peut les entendre, parce que quelqu'un d'extérieur peut les entendre.
En fait, je vais mettre une petite nuance. Ah. Cette terminologie d'acouphènes subjectifs et objectifs, elle n'est pas tout à fait juste. En fait, toutes les perceptions sont subjectives.
Mais ça veut dire que jamais vous pouvez, avec un stéthoscope par exemple, entendre ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que toutes les perceptions sont subjectives. Même un acouphène que je ne peux pas entendre, il est subjectif, ouais. Mais il est aussi objectif pour le patient parce qu'il l'entend vraiment. Donc ça c'est un point. Les perceptions, elles sont subjectives. On n'écoute pas la même musique en fonction de son background culturel, du plaisir qu'on a à l'écouter, de savoir si on l'a pratiqué ou pas. Et en fait, tout est subjectif en matière de perception. Après, je trouve que c'est difficile de définir la perception de quelqu'un d'autre par la perception du médecin. D'accord. Définir la perception d'un patient par la perception du médecin, à mon sens, ça n'en a pas justement de sens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que parfois, certains acouphènes sont, on va dire, objectivables. C'est-à-dire que le médecin peut entendre ce que le patient entend. J'ai vu hier en consultation un monsieur qui m'a dit « j'entends le bruit de mon cœur dans mon oreille droite ». J'ai pris mon stéthoscope, j'ai posé le stéthoscope à l'endroit.
Vous avez entendu ça.
Et j'ai entendu la pulsation cardiaque parce que ce monsieur avait certainement une anomalie vasculaire qui va être bilantée. On va essayer avec des imageries spécifiques, de déterminer quel est le vaisseau en cause. Et ensuite, on va essayer de voir si on peut l'arrêter ou pas en utilisant des techniques thérapeutiques directes.
Donc ça, c'est des causes bien précises.
C'est des causes très précises.
Qu'on arrive assez souvent à traiter. On peut régler
dans
ce problème.
Les acouphènes de type vasculaire correspondant à une pulsation cardiaque, c'est-à-dire que le patient va dire j'entends le bruit de mon cœur dans mon oreille ou dans ma tête, 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, on trouve une cause et cette cause est généralement curable. Pas d'accord. Tout le temps, mais généralement. Donc ça pose d'ailleurs le problème de quand le patient vient consulter en disant « j'ai un acouphène », en fait, très souvent, moi, ma première question, c'est de dire « mais dites-moi plutôt ce que vous entendez ».
D'accord.
Parce que ça change, en fait, la perspective à la fois diagnostique, mais aussi la perspective thérapeutique. Si le patient me dit qu'il entend une pulsation cardiaque, ben je m'oriente plutôt vers telle et telle cause et tel traitement. S'il me dit qu'il entend plutôt un claquement, comme si quelque chose de physique bougeait dans son oreille, l'hypothèse, c'est que ce soit plutôt un trouble musculaire. Et si c'est un sifflement ou un bourdonnement continu, à ce moment-là, on rentre dans le cadre de ce qu'on appelait avant les acouphènes subjectifs, c'est-à-dire les acouphènes que le médecin ne peut pas enregistrer, en tout cas avec un stéthoscope, même si l'avenir, c'est probablement d'avoir de l'imagerie cérébrale qui permet d'authentifier le fait que quelque chose dysfonctionne dans les voies auditives ou dans les voies extra-auditives qui peut témoigner de la présence de l'acouphène.
Et donc, pour ceux qu'on appelé avant subjectif, est-ce qu'on a compris d'où venait ce bruit que les patients entendent ?
Alors, on a des hypothèses. Il y a différents... vous savez, la médecine, c'est rarement des certitudes, c'est souvent des modèles théoriques qui calent plus ou moins avec la réalité du trouble que présentent certains patients. On n'a certainement pas aujourd'hui de modèle définitif qui explique à la fois la présence de l'acouphène et la survenue de la gêne. Par contre, on a quand même quelques idées, et la principale, c'est de dire que finalement, la plus grande pathologie qu'on trouve corrélée à la présence de l'acouphène continue de type subjectif, c'est la perte auditive. Mmh. Et finalement, il y a une relation entre perte auditive et acouphène, et l'idée, c'est que le cerveau, en fait, ne se satisfait pas de la présence de la perte auditive.
D'accord.
Et que donc, il va faire percevoir comme une sorte de son fantôme correspondant à ce qui a été perdu dans l'audition. Et ça ressemble un peu à un phénomène qui est connu de tous. C'est ce qu'on appelle les douleurs sur membres fantômes. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'amputation d'un membre, d'un doigt, d'une jambe, va déclencher une perception douloureuse du membre manquant. Et bien là, en gros, l'idée, c'est... vous avez une perte auditive, cette perte auditive déclenche un défaut d'entrée sensorielle et le cerveau ne va pas s'adapter correctement à ce défaut d'entrée sensorielle et donc générer de l'acouphène. Ce qu'on ne comprend pas en toute honnêteté aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que certains patients vont développer la perception que constitue l'acouphène à perte auditive égale alors que d'autres ne le développent pas.
Voilà, effectivement, il y a le fait d'avoir des acouphènes et le vécu de cet acouphène, et ça c'est très différent. Quel est le retentissement de ces bruits sur la vie du patient ? On en parle tout de suite. Près de 10% des Français souffrent d'acouphènes, des bruits entendus dans les oreilles qui peuvent handicaper gravement ceux qui en souffrent. On en parle avec le docteur Alain Londero, ORL à l'hôpital Lariboisière à Paris. Globalement, on va bien voir qu'il y a des facteurs qui font que la perception et le retentissement est différent, mais ça peut retentir comment sur la vie des patients ? Il peut y avoir aucun retentissement, simplement des troubles du sommeil, de l'irritabilité ?
En fait, c'est très très variable d'un patient à l'autre. C'est d'ailleurs difficile à mesurer, parce qu'on n'a pas de mesure objective de ça. Mais un peu comme pour la douleur, finalement. La douleur, c'est quelque chose de très personnel, et mesurer la douleur, c'est difficile. On peut essayer de l'apprécier du mieux possible,
mais on n'a pas... confiance en plus au patient, c'est lui qui la vit.
De toute façon, si on ne fait pas confiance au patient, quand on s'occupe de perception, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Donc la vérité, c'est la vérité du patient. On ne peut pas mettre en doute la souffrance déclarée par le patient. Enfin, ce serait extrêmement peu éthique et pas du tout déontologique. Par contre, on aimerait bien pouvoir le mesurer, parce que ça nous permettrait aussi de mieux évaluer nos thérapeutiques, mais pour l'instant, on ne dispose pas de méthodes objectives d'évaluation. Maintenant, on a de nombreux questionnaires qui permettent d'évaluer différentes dimensions de gêne ou d'inconfort ou d'intolérance qui sont induits à la fois par l'acouphène et l'hyperacousie, quel qu'en soit le type. Et ces méthodes, toutes subjectives qu'elles soient, permettent quand même d'apprécier le niveau d'intolérance des patients, et parfois ça peut conduire à des situations qui sont extrêmement compliquées, avec des patients qui sont effectivement désocialisés, qui ont des réactions anxieuses, dépressives sévères, qui avec parfois même des idées suicidaires, même si le nombre de passages à l'acte est fort heureusement très très faible, mais certains patients souffrent de façon extrêmement violente d'acouphènes, et l'objectif en fait des prises en charge actuelles, c'est d'essayer de diminuer du mieux possible le niveau de cette souffrance, pour rendre l'acouphène tolérable, si ce n'est négligé. C'est-à-dire que finalement, il devienne un signal neutre, qui n'aura pas les conséquences néfastes de la perception initiale.
On a des chiffres plus précis aujourd'hui sur le nombre de patients qui sont gênés, intolérants
Alors, une méta-analyse récente, qui doit dater d'un an ou deux, a montré que, donc, comme on le disait, une quinzaine de pourcents de la population souffre d'acouphènes. On va dire que 80% des patients qui ont un acouphène, en fait, ne s'en plaignent pas, ou très très peu. Ça n'est pas un souci de santé pour eux. Une vingtaine de pourcents, donc un patient sur cinq, ce qui n'est pas rien sur 15% de la population générale, vont en souffrir à des degrés divers. Et ce qu'on considère comme un acouphène sévère ayant un retentissement important sur les scores de qualité de vie en particulier, ça toucherait 1 à 2% des patients acouphéniques. Donc c'est pas la majorité, mais compte tenu du fait que c'est 15% de la population générale, ça 1 ou 2%, ça fait beaucoup beaucoup de monde et ça nécessite en fait des consultations spécialisées, multidisciplinaires pour la prise en charge, parce qu'on n'a pas de solution immédiate, en particulier médicamenteuse, aujourd'hui, qui permettent d'éradiquer l'acouphène, d'éteindre l'acouphène, mais on sait soulager les patients dans la mesure du possible.
Alors, on va essayer de comprendre cette différence de vécu. Je voudrais qu'on écoute Pierre, qui témoignait sur France Inter, dans le téléphone sonne. Écoutez-le.
Je suis acouphénique sévère depuis 1980, suite à un incident de tir à l'armée, au service. Je suis hyperacousique aussi sévère, c'est-à-dire que je ne tolère aucun bruit. J'ai maintenant 57 ans, quoi. Hein. Et après une période de un an de congé longue maladie, j'ai eu 2 ans de congé longue durée. Je suis maintenant à la retraite anticipée au titre du handicap. Et je suis donc avec une perte de revenus de moitié. Et actuellement, je ne vis plus, je végète. J'ai la chance d'avoir une maison dans un quartier hyper calme. Donc je reste dans mon silence, autrement dit dans mes 85 décibels de sifflets stridents. Et si je veux couvrir ces sifflets, ces acouphènes par de la radio ou par autre chose, ben je fatigue mon hyperacousie, donc je deviens agressif et très bête et très violent très, très rapidement. Je suis devenu handicapé social et je vis reclus volontaire afin de me protéger, de protéger les autres. C'est une végétation.
Alors ce patient raconte dans la suite de l'interview qu'il a toléré en fait ses acouphènes pendant des années, pendant 25 ans, et que depuis ces dernières années, il est devenu complètement handicapé.
Alors, ça pose la question de savoir quels sont les facteurs qui provoquent l'intolérance à l'acouphène. Et ça, les réponses ne sont pas absolument certaines. Elles sont probablement multifactorielles. Et on a quelques données qui commencent à être, colligées et analysées, qui laissent à penser, en fait, que le contexte, en particulier le contexte auditif, le contexte de sommeil, de troubles du sommeil, le contexte d'anxiété et d'hypervigilance, et le contexte de dépression, peuvent être des facteurs favorisants et qu'on pourrait presque prédire, en utilisant certains paramètres, le risque qu'a un sujet de développer un acouphène invalidant. Et le témoignage très très émouvant de ce patient, de cette personne, montre que ça peut avoir des conséquences extrêmement délétères. Alors, pour ne pas alarmer tout le monde, ça n'est pas tout le monde qui va évoluer comme ça, mais ça risque. Et il est possible, sans connaître l'histoire et sans vouloir faire de diagnostic médical à la radio, parce que ça se fait pas, il est possible que soit survenu quelque chose d'intercurrent qui a fait que l'acouphène, qui n'était qu'une forme auditive banale, dans une scène auditive banale, que ce patient a pu tolérer pendant très longtemps, à un moment, ces facteurs intercurrents est plongé en fait dans une sorte de cercle vicieux de perception, de focalisation d'attention, d'intolérance, de perception, de focalisation d'attention, d'intolérance, et puis que ça, en fait, ça tire vers le bas, avec en plus l'hypersensibilité au bruit qui vous coupe de vos relations sociales. Et on entend bien dans le témoignage du patient que, à la fois, quand il n'y a pas de bruit, il y a l'acouphène.
C'est ça.
Et quand il y a trop de bruit, il y a l'hyperacousie. Et donc, finalement, il n'y a jamais de repos.
Ce sont ces patients-là, bien sûr, qui viennent vous voir. Ils attendent quoi de vous? Avant tout, que vous les écoutiez, que vous leur expliquiez ce qui se passe, que vous les débarrassiez de leur acouphène. Qu'est-ce qu'ils attendent?
Je pense que la vraie demande, c'est débarrassez-moi de l'acouphène. Maintenant, si je ne sais pas, si je ne peux pas, mon rôle de médecin, c'est de les accompagner. Je ne sais pas guérir toutes les maladies. Enfin, On sait tous qu'il y a des maladies qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas guérir, qu'on ne sait pas enlever. Il y a plein de symptômes qu'on ne sait pas enlever. Et le rôle du médecin ne se résume pas à enlever les symptômes, à enlever les maladies. Le rôle du médecin, c'est d'accompagner le patient. Et dans ce cadre-là, on peut rendre service avec des techniques qui sont aussi diverses que certains médicaments qui peuvent aider, certaines thérapies dites sonores.
On y vient tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Carnet de santé consacré aujourd'hui aux acouphènes, ces bruits que l'on entend, qui peuvent profondément perturber la vie de ceux qui en souffrent. Il n'y a pas de médicament permettant de traiter ce phénomène. Que proposer aux patients? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Alain Londéro, ORL, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, qui a la réalisation Cassandre Puel, à la technique Alexandre Dang et Ruben Carmazine à la vidéo. On l'a compris, donc va falloir en général apprendre à vivre avec ses acouphènes, c'est le but de la prise en charge déjà. Quand il y a une baisse d'audition, ce qui est souvent le cas, est-ce que le port des appareils auditifs, ça améliore les acouphènes ou pas?
Alors, souvent, mais pas toujours. C'est des techniques d'appareillage qui sont souvent compliquées, donc qui nécessitent une certaine expertise de la part de l'audioprothésiste. Et surtout, je voudrais insister, je crois que personne n'a en matière d'acouphènes chroniques invalidantes de réponse toute faite, tout trouver, et ça ne dépend que très rarement d'un seul interlocuteur. Il est bon que le patient ait un interlocuteur qui serve de pivot à la prise en charge, mais ensuite, de nombreux intervenants vont graviter autour du patient pour essayer de lui rendre service au mieux. Et je crois que le maître mot, c'est la multidisciplinarité. Je ne suis pas psychologue, je ne sais pas aider un patient dépressif ou anxieux aussi bien que le ferait un psychiatre ou un psychologue. Je ne suis pas audioprothésiste et je n'ai pas l'expertise de certains techniciens audioprothésistes diplômés d'État qui ont une expertise vraiment tout à fait particulière pour la prise en charge, en particulier de l'amplification des thérapies sonores qui rendent service à bon nombre de patients. Je suis ORL, peux m'occuper du versant otologique. Je ne suis pas neurologue non plus. Et donc, en fait, de nombreux intervenants vont venir, et je pense que c'est ça qui finalement permet d'apporter une solution, à condition qu'on réussisse à établir ce qu'on appelle une alliance thérapeutique en matière de médecine, c'est-à-dire une relation de confiance entre le patient qui va cesser d'errer de médecin en médecin en cherchant une thérapeutique curatrice ou curative qui le plus souvent n'existe pas, mais essayer de rentrer dans un chemin où on ne va pas dire au patient il faut vous adapter ou vous débrouillez-vous avec ou adaptez-vous, mais on va essayer de lui donner des outils en l'accompagnant, en essayant d'évaluer pas à pas les résultats de la prise en charge pour essayer de faire qu'en bout de course, le patient se dise moins invalidé, voire plus gêné du tout, alors qu'au départ, au moment de la consultation initiale, il l'était.
D'où l'importance, on l'entend très bien, de consulter vraiment, d'aller consulter. Puisqu'il y a des solutions, il faut aller consulter et des médecins spécialisés.
Et alors, dans le cas le plus simple, quand la gêne est mineure... Pour les patients très gênés, il faut, je pense, après avoir fait le parcours standard, le médecin généraliste pour évaluer, à l'ORL à qui on fait confiance, si l'ORL se sent démuni, ou si les premiers praticiens se sentent démunis, il existe des centres multidisciplinaires maintenant assez bien répartis. On n'est pas malheureux en France de ce point de vue-là.
C'est bien. C'est bien entendu.
Je ne suis pas à l'initiative de ça, mais il existe une association qui s'appelle l'AFREPA, pour association francophone des équipes pluridisciplinaires pour traiter les acouphènes, en acouphénologie. Et l'AFREPA a des antennes un peu partout avec une tentative d'homogénéisation de la prise en charge. Et donc, les patients, je les invite à consulter le site de l'AFREPA
un peu de positif, ça fait du bien. On a parlé là des appareils auditifs, mais il y a aussi des méthodes d'enrichissement sonore pour masquer l'acouphène. C'est quoi exactement?
En gros, l'idée, c'est que si vous êtes confronté à une perception gênante, il y a une solution qui est toute trouvée, c'est de la noyer dans un environnement sonore qui est plus confortable.
Oui.
Parce qu'en fait, nos cerveaux ne sont jamais dans le silence. Le silence est une notion extrêmement subtile. On n'est jamais sans rien entendre, ne serait-ce que parce que nous, on fait du bruit.
Bien sûr.
Donc en fait, le cerveau ne dit pas c'est du silence ou c'est du bruit. Il dit c'est du fond, et auquel cas je m'en fiche, ou c'est une forme. Et à ce moment-là, je vais focaliser l'attention et ça peut devenir extrêmement irritant. Et donc, l'idée, c'est que l'acouphène, ce serait comme une sorte de goutte d'eau qui va tomber d'un robinet et qui va être extrêmement gênante, voire invalidante. Alors qu'une jolie cascade, bah, finalement, c'est ça, on peut passer ses vacances à côté et ça va être très sympathique. Bah, mettez la goutte d'eau dans la cascade et vous retrouverez, si ce n'est le silence, qui n'existe pas, mais au moins le repos, parce que vous n'aurez pas la focalisation d'attention sur le signal perturbateur.
D'accord.
Et donc ça permet d'interagir avec l'acouphène d'une façon qui peut être profitable quand elle est intégrée dans une démarche plus globale de prise en charge et de mise à distance du symptôme.
Alors, autre technique, les thérapies cognitivo-comportementales, les techniques de relaxation, est-ce que tout ça fait la preuve de son efficacité ?
Alors, ça fait partie des... ce sont probablement les techniques les mieux validées aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait que c'est utile aux patients. Tout le problème, c'est de les rendre accessibles aux patients et intelligibles pour le patient. Parce que le patient qui consulte un ORL parce qu'il a un acouphène, il consulte pour une pathologie organique et il a envie d'être soulagé d'un symptôme organique. Et l'idée d'aller voir un psychologue n'est pas complètement intuitive. Mais comme dans la douleur chronique, vous avez mal dans les suites d'une intervention, c'est compliqué d'aller voir un psychologue. Alors qu'on sait que les techniques d'adaptation à la situation douloureuse ou à la situation acouphénique sont des techniques utiles. Et les psychologues cognitivo-comportementalistes ont développé des outils, des exercices attentionnels, des exercices de relaxation. Mais ça, c'est plus thérapie cognitive et comportementale, c'est plus une boîte à outils. Et il y a différents outils avec différentes vagues de TCC qui ont été développées. Thérapie comportementale et cognitive qui ont été développées dans le temps. Et ces différentes thérapeutiques, en fait, sont proposées et assez individualisées pour chaque patient parce que, bien sûr, les situations cliniques sont différentes et chaque patient n'aura pas besoin exactement des mêmes exercices pour trouver un soulagement vis-à-vis de la perception de l'acouphène ou de l'hyperacousie, d'ailleurs.
Vous pensez, vous, un jour qu'on pourra guérir ces patients, qu'on pourra vraiment, non pas soulager, accompagner, mais les guérir?
Alors, c'est l'objectif. Maintenant, je ne suis pas absolument certain qu'on aura une méthode qui s'adapte à tous les sujets. Parce que les réalités cliniques sont différentes en fonction de la cause, en fonction de l'évolution, en fonction de l'intensité de l'intolérance. Et j'imagine qu'on va développer progressivement des stratégies qui seront de plus en plus efficaces dans certains domaines spécifiques. Il existe déjà d'ailleurs des pathologies pour lesquelles on peut, après une intervention chirurgicale, soulager les patients d'un acouphène. Ils consultent pour un acouphène, on découvre la maladie qui est justiciable ou qui justifie la prise en charge chirurgicale. Et après la prise en charge chirurgicale, finalement, ça va soulager l'acouphène. Donc ça existe déjà. L'idée, c'est d'expandre ça pour la plus grande majorité des patients, même si on n'aura probablement pas une pilule magique un jour ou l'autre, une sorte de magic bullet, une pilule miracle, mais qui sait.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
Un dernier mot sur la prévention. Est-ce qu'on peut réduire ce risque d'avoir des acouphènes?
Alors, je pense qu'il y a deux façons d'imaginer la prévention. La première, c'est de dire qu'on a un système auditif qui fonctionne tout le temps et qui est d'une fragilité extrême. On n'en a pas dit grand-chose, mais on entend toute sa vie, depuis le ventre de notre mère jusqu'à quand on va mourir, avec 16 000 cellules, en gros.
C'est pas beaucoup, ça.
C'est rien, et par groupe de quelques cellules, elles s'occupent d'une fréquence. Donc, quand vous avez abîmé 4 ou 8 cellules dans votre oreille, cette fréquence-là ne sera plus jamais entendue de la même façon. Donc, c'est très fragile. Donc, on va pas à un concert sans casque ou sans bouchon, on perce pas un mur en béton sans se protéger. C'est vraiment déraisonnable.
Et de s'appareiller le plus tôt possible en cas de presbyacousie, ça a un intérêt ou pas?
Juste un tout petit mot supplémentaire sur le fait que si on sait que certains patients sont plus sujets que d'autres à développer des acouphènes invalidants, ceux-là, il vaudrait mieux les cibler très tôt pour pouvoir s'en occuper très tôt. Et effectivement, si on peut s'appareiller pas trop tard, c'est mieux. Maintenant, il ne faut pas s'appareiller quand on a une perte auditive très mineure. On peut résister quelques temps.
D'accord. Ça fait réagir dans le studio. Merci beaucoup, Alain Landéraud, pour toutes ces explications. C'était passionnant. Merci.